RCFM, Sabienza, Jean-Michel Fratigelli, Fabrice Fenouillère.
Nouvelle musique, nouvel indicatif, et toujours Fabrice Fenouillère. Fabrice, bonjour.
Bonjour Jean-Michel.
À la technique, nous trouvons Joël Colombagne et un invité pour cette première qui va essuyer les plâtres.
Eh oui, mais on le connaît bien, oui. Ça va bien se passer avec lui. Et comment pouvait-on faire autrement, Jean-Michel, je me fais la réflexion presque en direct, que d'avoir une thématique sur le forum, avec vous à mes côtés, l'empereur du forum matinal. Donc forcément, oui. On va être avec César aujourd'hui.
Ah oui, évidemment, on va être avec César. Le forum, c'est du latin d'ailleurs.
Ah, et avec Éric Tessier. Alors Éric Tessier, on le connaît bien parce que c'est un maître de conférence à l'université de Nîmes, un spécialiste de l'histoire romaine, de l'histoire vivante aussi, puis de l'archéologie expérimentale. Il est à la tête des grands jeux romains à Nîmes. Je ne sais pas si ça vous dit un truc.
Ah oui, j'ai vu un reportage à la télévision, c'est phénoménal.
C'est mortel, c'est 40 000 personnes quasiment sur 3 jours. Et puis c'est aussi un auteur, La mort en face, Les gladiateurs, Pompée, l'anti-César. Aujourd'hui, on le reçoit pour parler de César.
De César, Jules César. Alors on va commencer par remettre les choses en place. Jules César, contrairement à ce que disaient Uderzo et Goscinny, n'a jamais été empereur.
Et non, il n'a pas été empereur, c'est un faux ami latin, c'est un imperator, c'est-à-dire un général victorieux de la République. Et non, il ne sera pas empereur, c'est son fils adoptif, ses petits-neveux, Octave Auguste, qui deviendra ce qu'on appelle un empereur. Enfin bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà.
Ils seront en fait les premiers empereurs de l'Empire romain.
Voilà, oui, c'est là juste la génération après où on fait démarrer donc la suite des empereurs. Donc César, lui, il est impérator. Son titre aussi, c'est consul, c'est aussi dictateur. Ce qui est un titre
c'est pas
de
un
la
titre,
République.
Ça.
Si, c'est un titre, c'est une magistrature. Mais pas tellement à l'époque romaine,
c'est oui,
ça aussi.
C'est,
l'histoire romaine est faite de faux amis. Là aussi, dictateur, on imagine un moustachu à casquette. À l'époque, c'est
j'aime
une.
Bien l'image.
C'est, vous voyez de qui je parlais.
C'est avec la raie sur le côté, oui.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, à l'époque, c'est une magistrature de la République. Quand la République est en danger, ben, elle délègue ses pouvoirs pour un temps délimité et dans un cadre légal précis, donc à un magistrat qui est là pour sauver les meubles.
Et Éric Tessier, si on devait essayer de se replonger un petit peu dans cette histoire en commençant par la Genèse, Jules César, c'est quel siècle et c'est quoi, un fils de riche ?
Alors, Jules César, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ, il naît en 101 avant Jésus-Christ. Il fait partie des grandes familles romaines, pas forcément les plus riches, mais en tout cas les plus anciennes. Il prétend descendre de Vénus, ce qui est quand même pas mal sur un CV, donc d'avoir ça. Il fait partie justement, oui, de cette grande aristocratie très très ancienne qui monopolise les postes de cette république, parce que c'est une république aristocratique à l'époque où il vient au monde. Et donc évidemment, il va vouloir jouer un rôle politique. C'est de toute façon normal. Ses ancêtres ont fait ça aussi avant lui. Le problème, c'est qu'il arrive aussi à un moment où la République est en plein drame. Quoi. Il arrive au moment des guerres civiles. On se rapproche. En fait, on le sait pas encore à l'époque, mais on se rapproche de l'Empire. C'est une République. On peut pas dire qu'elle soit vraiment à l'agonie, mais elle est vraiment traversée de nombreux conflits. Quoi.
Et c'est un personnage qui va gravir les marches du pouvoir ou qui va être catapulté d'un coup. Je crois qu'il a pris du temps, il est passé par tous les échelons, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. J'ai fait une biographie sur ce qui a été son modèle aussi et son adversaire, c'est Pompée. Pompée, lui, il a été projeté vraiment sur le devant de la scène très très jeune. C'est un peu un Bonaparte de l'époque, Pompée. César, lui, il a fait la voie un peu classique, c'est-à-dire qu'il a fait le cursus honorum, c'est-à-dire qu'il a occupé, il a été élu pour les différentes magistratures, le questeur d'abord, puis bon, après, on a l'édile, le préteur, etc., jusqu'à consul. Donc il a fait la voie un peu classique, mais avec beaucoup d'ambition. Et puis bon, il se rêve d'être Alexandre le Grand, il se rêve de faire autant de conquêtes que Pompée. Et donc bon, l'histoire va lui permettre ça quand même.
Même Napoléon rêvait d'être Alexandre le Grand.
Et oui, c'est le modèle absolu, Alexandre le Grand. Hein. Il n'y en a pas 36 comme ça. C'est-à-dire, c'est une sorte de météore dans l'histoire qui très jeune réussit à conquérir d'immenses royaumes. César, lui, il se dit mais c'est foutu. J'ai 40 ans, ma vie est foutue. Il a même pas de Rolex. Enfin, vous dites, c'est
vraiment, mais il fallait attendre jusqu'à 50.
Ben voilà. Donc, mais là, il était pressé. C'est un homme pressé. Mais oui, parce qu'il se compare à Pompée, qui lui, à son âge, a déjà fait beaucoup de choses. Mais bon, voilà. il va se rattraper. Et puis César va être finalement une sorte de nouvel Alexandre. Son nom va rester dans l'histoire. Et c'est vrai que Napoléon, ses modèles, c'est Alexandre et César. Jules César restera le modèle.
Et c'est quand, Éric Tessier, du coup, que tout va basculer pour César? C'est cette fameuse guerre des Gaules?
Oui, la guerre des Gaules, c'est... Alors, d'abord, il y a un pacte politique, c'est le triumvirat.
Eh oui.
En 60 avant Jésus-Christ, dans cette république finalement qui est très corrompue, qui est vraiment très aristocratique, il y a deux têtes d'affiche, quoi. C'est Pompée et Crassus. Pompée qui a la gloire militaire, Crassus qui a énormément d'argent, et César qui est le petit dernier finalement, dans le sens que lui, il a pas d'argent, il est fauché d'ailleurs, il a fait sa carrière à crédit, c'est Crassus qui lui a tout prêté. Sa gloire militaire, elle est encore très très mince à ce moment-là, mais il représente ce qu'on appelle le parti des populaires, les populares, c'est-à-dire qu'il est le neveu par alliance de Marius. Dans cette Rome qui sort des guerres civiles, entre d'un côté le Sénat, de l'autre côté ceux qui défendent les intérêts du peuple, de la plèbe, César apparaît comme un chef de parti politique. Et donc les trois se disent, plutôt que de se faire la guerre, on va s'entendre, on va faire un triumvirat, c'est-à-dire une association, une société, pour se soutenir les uns les autres. Et dans cette société, la carotte de César, c'est d'être consul, et après avoir été consul en 59, il part pour conquérir les Gaules. En fait, c'est vraiment une guerre qu'on lui reprochera d'ailleurs, on l'accusera de guerre injuste. C'est une guerre qu'il fait pour sa gloire, c'est une guerre qu'il fait pour égaler, voire dépasser la gloire de son modèle Pompée, et il va y réussir. Donc c'est vraiment le moment important pour lui, c'est ces années qu'il va passer à conquérir les Gaules.
Et il était assez peu souvent à l'époque à Rome.
Il fait des allers-retours. Il fait des allers-retours,
enfin, entre la Gaule. Il n'y avait pas le TGV non plus.
Non, il n'y avait pas le TGV, mais il bouge beaucoup. Bon, à cheval, surtout.
Sur son cheval blanc.
Oui, sur son cheval blanc ou autre.
Arrêtez de regarder Astérix.
C'est pas Henri IV non plus. Bon, donc. En fait, il fait des allers-retours entre la Gaule et l'Italie du Nord. Il n'a pas le droit de revenir à Rome pendant ces années où il est proconsul, c'est-à-dire on prolonge son pouvoir consulaire donc sur des provinces, en l'occurrence donc l'Italie du Nord et la Gaule. Et donc il fait des allers-retours pour toujours garder un œil sur ce qui se passe à Rome, parce que la politique continue à Rome. Et donc l'hiver, il va lever des troupes d'ailleurs en Italie du Nord, en Gaule du Sud. Et il va donc voir un peu l'évolution de la situation politique à Rome. Et il repart donc à la belle saison généralement, pour conquérir un nouveau bout des Gaules, pour faire face à une nouvelle révolte des Gaulois, pour aller faire aussi deux débarquements qui sont fantastiques. Il va débarquer à deux reprises en Bretagne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne actuelle, l'Angleterre actuelle. Et c'est complètement dingue, parce que le premier débarquement, c'est une sorte de raid finalement, avec deux légions seulement, sur un pays qu'il ne connaît absolument pas. Il n'y a pas de guide, il n'y a rien, il y va là, vraiment quasiment juste avant la mauvaise saison. C'est très acrobatique, il est à deux doigts de tout perdre, et il y retourne l'année suivante pour faire une campagne qui est assez brève. Il va jusqu'à Londres, puis il rembarque, il revient en Gaule. Tout ça pour dire, je suis allé là où les Romains sont jamais allés. J'ai planté les aigles de Rome dans ce pays mystérieux et inconnu qu'est la Bretagne, qui n'est pas très riche d'ailleurs, mais pour dire, j'ai fait un exploit comme Pompée, qui est allé du côté de l'Arménie actuelle, de l'Azerbaïdjan actuel. Vous voyez, pour les Romains, ça fait quand même très très loin. Même Alexandre le Grand n'était pas allé là-bas. Et donc voilà, c'est vraiment de la propagande en fait. C'est pour dire, voyez ce que je suis en train de faire, les dieux sont avec moi, je mets vraiment donc la gloire de Rome au sommet, parce que à chaque fois, lui, il envoie des commentaires. Il envoie ses commentaires à Rome, qui sont lus sur le forum, qui sont évidemment commentés. Après, les commentaires sont commentés. C'est comme maintenant au journal télé. Et ça lui permet justement de renforcer sa popularité. Le but du jeu, il est là, quoi.
Mais alors, est-ce qu'il était vraiment populaire à Rome ?
Oui, il est populaire à Rome, d'abord parce que justement il représente ce parti populaire, c'est l'héritier finalement de ce parti populaire, qui a été vaincu d'ailleurs précédemment à l'époque de
Mais Sina, c'est pardonnez-moi, mais ces campagnes coûtaient extrêmement cher et la population n'était pas forcément extrêmement riche.
Eh ben, en fait, non, elle coûte pas cher, elle rapporte. C'est-à-dire que les campagnes se font au détriment des vaincus.
Ah oui, à cause des pillages et des razzias, oui.
Et voilà, et ça rapporte beaucoup. On parle d'un million d'esclaves ramenés de Gaulle. Donc, plus le pillage, plus le butin, plus le tribut que doivent verser les peuples vaincus, tout ça ramène beaucoup d'argent. De toute façon, c'est un peu la conséquence du système politique. Il faut dépenser beaucoup d'argent pour être élu, pour avoir la faveur du peuple. Et une fois qu'on a été élu, qu'on arrive à être consul, ben on est chef d'armée. Et donc là, si on fait une campagne victorieuse, ben là, c'est le jackpot, on rembourse ses dettes, on devient très riche et on redistribue. C'est ça, surtout, finalement, qu'on attend de César, c'est d'être généreux et de redistribuer sous forme de spectacle, sous forme de banquet, sous forme de distribution d'argent, sous forme de terres aussi qu'il va donner donc aux citoyens les plus pauvres. Et ça, César le fait à la perfection, c'est-à-dire qu'il est paradin, quoi. Lui, son but, c'est pas l'argent, hein, c'est pas Crassus. Lui, son but justement, c'est le pouvoir, et pour ça, ben, il sait mettre la main à la poche.
Et c'est Crassus qui a fini avec de l'or coulé dans la gorge tellement il aimait ça.
Et oui, parce que pendant justement que César est en train de conquérir les Gaules, Crassus, lui, à son tour dans le triumvirat, donc se devient consul. Et puis lui, il attend même pas la fin de son consulat. Il dit je veux une armée, je veux aussi avoir ma gloire militaire. Et il part donc en Syrie pour attaquer les Parthes, un empire qui correspond à peu près aujourd'hui à l'Irak et l'Iran actuel. Et ça tourne très mal. Son armée est massacrée donc à la bataille de Carès, une grande défaite romaine. Lui se suicide, on lui coupe la tête et puis l'empereur des Parthes va lui faire couler de l'or fondu dans la bouche en disant voilà qui va rassasier sa soif d'or.
C'est délicat et poétique, oui, je trouve.
C'est politique, mais c'est une époque très politique. De toute façon, il n'y en a aucun qui meurt dans son lit, quoi, à cette époque-là.
C'est vrai qu'il y en a eu assez peu, il faut reconnaître. Il n'est pas allé jusqu'aux confins de l'Asie, par exemple. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu le temps?
Il n'a pas eu le temps, c'était vraiment son projet, quoi. Donc, lorsqu'il va être assassiné aux Ides de Mars, le 15 mars 44,
avant Jésus-Christ,
il a ce projet, justement, d'aller chez les Parthes, parce que ça les chatouille, quoi. Les Romains, Pompée, lui, avait eu la sagesse de dire, oulala, c'est un peu trop loin, là-bas, puis c'est un état structuré, ils sont costauds, on va pas les embêter. Mais Crassus y est allé, il a été défait, et lui, César, c'est toujours le rêve oriental. Il veut mettre ses pas dans les pas d'Alexandre. Il a commencé à le faire, puisque là, lui aussi, il a eu une campagne d'Égypte, lui aussi, il a fait cette guerre à Alexandrie, il en a ramené quand même Cléopâtre, mais ça suffit pas, il faut aller plus loin, il faut aller vers l'Orient, et donc c'était son projet. Les Ides de Mars l'empêcheront, donc c'est le manque de temps, on va dire.
On va faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien, et peut-être, Éric Tessier, vous allez découvrir ce groupe merveilleux qu'est Bogevanto.
Avec plaisir.
RCFM, Sabienza, Fabrice Fenouillère, Jean-Michel Fradigelli.
Strada mio puntana, o la mia bandiera, o la mia bandiera. Ti vego la mia bandiera, in ogni fiume i corre, in lusa braccia un mare, in aianna in albore. Si per me a stella ardente grida di un sembulore, o la mia bandiera, o la mia bandiera. Ti ecco la mia bandiera, in ogni monte scolpito, in ogni arigio, ogni leccia, in ogni castagno ferito. Si per me a scorza ardita i arburu sempre rido, o la mia bandiera, o la mia bandiera. Ti ego la mia bandiera, il pianto, il ugello, il amaro che si
Bodjevan tutti ue golomio wander.
Sabienza, Jean-Michel Fradigelli, Fabrice Fenouillère.
Et notre invité, Fabrice.
Eh oui, Éric Tessier, on se régale avec lui. Hein. On le connaît, grand pédagogue, maître de conférences en dehors de cela à l'Université de Nîmes, auteur et puis spécialiste de l'histoire romaine. Éric, cette histoire de guerre des Gaules, Vercingétorix, César, c'est là que vont se passer pas mal de choses, peut-être, pour notre invité du jour. Et ensuite, il va rentrer à Rome et va vouloir prendre un pouvoir absolu.
Alors, oui, il va être vainqueur donc des Gaulois, en fait des peuples des Gaules.
Et c'est ça, bon, il n'y avait pas vraiment les Gaulois. Hein, en sens
et oui, ça, c'est un peu une invention romaine en quelque sorte, puisque bon, on peut parler des Celtes, c'est un terme grec, Keltoi, qui est, bon, c'est vraiment toute la civilisation celtique, ça va jusqu'à la République tchèque actuelle, il y en a en Turquie actuelle, il y en a en Angleterre, en Espagne, il y en a partout des Celtes. Pour les Gaulois, c'est les Celtes près de chez eux, quoi. C'est-à-dire, il y a des Gaulois dans l'Italie du Nord, il y a des Gaulois de l'autre côté des Alpes. C'est ça, la Gaule. Et donc, pour César, qui a conquis les Gaules, il va définir le périmètre de sa conquête. Et c'est les Pyrénées, c'est les Alpes, c'est le Rhin, et puis, bon, l'océan. Et de là, finalement, un cadre territorial qui va être bien défini. Mais à l'intérieur de ça, il n'y a aucune unité. Il y a de très nombreux peuples, 80 peuples au moins, qui sont souvent la guerre entre eux, et César va s'appuyer sur ses oppositions internes à ce qu'il appelle les Gaulois pour pouvoir plus facilement conquérir ce vaste pays très peuplé et très riche aussi.
Oui, s'il s'était fédéré, il aurait eu beaucoup plus de problèmes.
Alors, ça aurait été même quasiment impossible, quoi. C'est-à-dire qu'il avait face à lui, bon, en plus des peuples qui étaient évolués et sur le plan militaire qui n'avaient rien à envier finalement aux Romains, puisque les Grecs, les rois grecs et hellénistiques les payaient très très cher, les Gaulois, pour se servir d'eux comme mercenaires. Donc c'est qu'ils étaient bons et qu'ils connaissaient bien la guerre telle qu'on l'a fait pratiquer donc dans la Méditerranée. Donc c'est leur désunion, oui, qui a permis à César, et aussi l'intelligence tactique et stratégique de César, qui a permis justement de l'emporter, quoi, pour les Romains. Quoi.
Et si on devait faire un portrait de César, là, vous venez nous annoncer intelligence tactique, politique, c'était quoi ces traits de caractère principaux? C'est une grosse ambition? C'est l'envie de flatter le peuple, de la jouer un petit peu populaire tout en étant très proche d'autres partie beaucoup plus riche. On est comment avec cet homme-là?
Alors, l'ambition, oui, c'est évident depuis toujours, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a ce trait-là. Après, c'est vrai que c'est une grande intelligence tactique, stratégique.
C'est un sanguinaire?
Non. Pas plus qu'à l'époque. Je dirais même plutôt moins. C'est-à-dire que, bon, il fait la guerre, il a fait avec beaucoup de brutalité. C'est-à-dire, mais tout le monde fait la guerre de manière brutale, c'est-à-dire malheur aux vaincus. C'est même un Gaulois qui a dit ça aux Romains, ils l'ont pas oublié, quoi, hein, le coup de Brennus. Mais c'est-à-dire que bon, on prend une ville et on tue finalement tout ce qui bouge, enfin tout ce qui résiste, et le reste est transformé en esclave. On conquiert un pays, on va vivre sur le pays. Donc il n'est pas plus sanguinaire que les autres. Les Gaulois font pareil, hein, faut bien le dire. Par contre, sur le plan politique, il est beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on sort d'une période de guerre civile qui a été terrible, avec des proscriptions, c'est-à-dire qu'on écrit des listes de citoyens sur les murs, et ces citoyens sont déjà des morts-vivants, c'est-à-dire qu'il devient légal, même une obligation, de les tuer, de les assassiner. On est même récompensé pour ça.
Et lui, dans...
Ben oui, c'est ça, la République romaine. On l'oublie un peu. Et donc César, lui, justement, va faire la guerre civile, va s'opposer à Pompée et à ses successeurs. Mais lui, justement, il va éviter les proscriptions, il va être très clément. On pourra dire que c'est un jeu politique, mais enfin, bon, pour ceux qui évitent le glaive ou le poignard, c'est quand même beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ça va lui coûter cher, parce qu'en fait, ce sont les gens qu'il a graciés, les gens à qui il a pardonné de s'être trompé de parti, qui vont se conjurer pour l'assassiner. Donc il a un côté quand même par rapport à ça, je dirais, assez sympathique, César, au-delà du fait que, bon, d'accord, homme politique, ambitieux, conquérant, etc. Mais par rapport aux autres Romains, il faut toujours replacer dans le contexte de l'époque, par rapport à nous, ça n'a pas grand-chose, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais par rapport à ce qui a été fait par ses prédécesseurs et qui sera fait par ses successeurs, hein, Marc-Antoine et Octave, là aussi, ça va y aller au couteau. Mais il est plutôt quand même finalement beaucoup plus humain, on peut dire ça.
Alors, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, même chez nous, c'est que Jules César est venu personnellement en Corse.
Oui, il a fait un petit passage en Corse, donc en 46 avant Jésus-Christ. Ça s'inscrit au moment justement de la guerre civile donc qu'il doit mener contre Pompée. Il a vaincu Pompée donc en 48 à la Pharsale. Il a rencontré Cléopâtre donc en Égypte. Il a fait une guerre à Alexandrie. Et surtout, les Pompéens donc ont réuni leurs forces et les a vaincus en Tunisie, à la bataille de Tapsus. Et là, entre les deux, donc il va rentrer donc en Italie, il va célébrer donc un quadruple triomphe, et il va passer en Corse dans le cadre justement de l'achèvement de cette guerre civile, parce qu'après la Tunisie actuelle, l'Afrique du Nord, les derniers Pompéens se sont réunis donc en Espagne. Il y aura une bataille, la bataille de Munda, qui sera terrible. Et entre les deux, voilà, il passe en Corse parce que la Corse c'est quand même une île stratégique qui est un peu au milieu du bassin occidental de la Méditerranée.
Ça l'est toujours. C'est une base de l'OTAN, Zelenzar, donc ça n'a pas changé depuis César.
Ça l'est toujours, et puis bon, à l'époque on n'avait pas d'avion, par contre on avait des bateaux, alors soit on faisait du cabotage entre la Gaule du Sud, entre Marseille par exemple, et l'Afrique du Nord et Carthage, soit on pouvait passer donc par les îles, et c'était le chemin quand même le plus court. Donc c'est intéressant, et puis bon, il y a une présence romaine en Corse. Son oncle, par alliance, Marius, a fondé Mariana.
Bien sûr.
Donc il y a une preuve. Et puis aussi, il y a cette exigence politique d'installer des colons, c'est-à-dire c'est un problème social. Il y a d'un côté des citoyens très pauvres, prolétarisés, qui n'ont plus de terres, qui sont à Rome, et qui ne demandent qu'une chose, c'est de retrouver des terres pour pouvoir donc les cultiver. Et puis il y a ces vétérans, ces anciens soldats, qui au bout de 20 ans de service commencent à avoir un peu mal au dos, mais qui sont de toute façon des paysans romains, et qui veulent eux aussi des terres. Donc la Corse, c'est aussi une petite partie finalement des très nombreux colons romains que César va installer un peu partout dans la Méditerranée. Donc
il est quand même resté 27 jours en Corse. Qu'est-ce qu'il a fait?
Oh, je pense que ça, en 27 jours, on ne peut pas faire énormément de choses à l'époque.
Il a réclamé, il a dit « elle est à moi » quand même. Hein. Il s'est imposé.
Oui, c'était considéré comme la même province, c'était une province Corse-Sardaigne.
Oui, c'était Corse-Sardaigne, c'est un héritage de la première guerre punique. Hein. Auparavant, c'était la zone d'influence de Carthage. Les Romains donc ont élargi, eux, leur propre zone d'influence sur ces îles, Sicile, Sardaigne et Corse, au moment de la première guerre punique. C'est vieux, c'est au IIIe siècle. Et donc surtout, bon, là, c'est pour César, je pense qu'il y voit surtout un point stratégique, il y voit surtout une possibilité d'installer des colons. Peut-être y a-t-il aussi un sens un peu affectif, un peu un témoignage politique de l'œuvre de son oncle Marius, qu'il remet beaucoup en avant dans son œuvre politique. Il est dictateur à cette époque-là, et donc il s'appuie justement sur le Parti populaire. Donc il doit y avoir un peu tout ça, mais je pense que c'est surtout finalement une sorte de tournée d'inspection. Il est plus préoccupé par ce qui se passe en Espagne à ce moment-là,
et surtout,
où les Pompéiens donc reprennent les armes.
Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'il lui reste 2 ans à vivre, pas beaucoup plus.
Hein,
pas beaucoup
plus. Oui, à peine.
Il finit comment, César, dans un bain de sang au Sénat, avec son fils adoptif qui le troue d'un coup de couteau?
Oui, alors c'est la fameuse ide de mars, le 15 mars, qui restera une date noire pour Rome, qui sera vraiment considérée comme un jour néfaste où il faut rien faire. Il va au Sénat à Rome, il est dictateur, il s'est fait proclamer dictateur à vie. Il est très sûr de lui, on lui annonce des tas de choses, on lui dit mais attends César, fais attention, il y a un complot qui se prépare, les augures sont très négatifs. Non, j'y vais quand même. Lui, tout ce qu'il a en tête, c'est le coup d'après, c'est-à-dire la conquête de l'Orient. Il a préparé toute une armée donc en Orient, en Grèce notamment pour ça. Et puis bon, là il y a une conspiration, c'est la conspiration des aigris, quoi. Il y a une conspiration des égaux pendant la Révolution, là c'est la conspiration des aigris. C'est à la fois tous ceux qui l'ont soutenu et qui se sentent insuffisamment récompensés de leur mérite, et tous ceux à qui il a pardonné, qui étaient dans le camp de Pompée, qui ne lui pardonnent pas de leur avoir pardonné. Tout ça, ça fait donc une conspiration où il va être frappé de nombreux coups de couteau, le nombre varie suivant les auteurs, mais enfin bon, oui, c'est un bain de sang. Et puis, fait un peu tragique et intéressant à la fois, c'est qu'il s'effondre, il meurt donc au pied de la statue de Pompée. qui avait été donc toujours son modèle, mais aussi à la femme et aussi son gendre, puisque Pompée avait épousé la fille de César, et qui a fini par être son adversaire. Donc César meurt, et c'est donc son petit-neveu qui va se retrouver, donc son héritier principal à 19 ans, c'est Octave. Et Octave, donc lui,
va être le premier empereur.
Pas tout de suite, mais il faudra encore une guerre civile entre-temps.
En 30 secondes, parce que malheureusement, cette émission va toucher à sa fin, alors on aurait pu la faire quatre fois.
C'est passionnant. Ouais.
La phrase, toi aussi, mon fils, est vérifiée.
Alors, on continue à polémiquer là-dessus. Hein, tant qu'il n'y aura pas un test ADN, on ne pourra pas en avoir le cœur net. Mais là, je crois que ça sera un peu difficile. Il a dit en grec d'abord, et puis il a dit « toi aussi, mon petit ». C'était un terme affectueux qu'on traduit par « mon fils ». On dit il était trop jeune pour avoir fait un enfant à la mère de Brutus. C'est discutable, quoi. Mais en tout cas, une chose est sûre, si c'était pas son fils par le sang, c'était quelqu'un qui était très proche de lui, qui était pourtant dans le camp pompéien, le camp adverse. Et après la grande bataille de Pharsale où César a vaincu Pompée, ce qui lui a fait le plus plaisir, c'était de savoir que Brutus était parmi les survivants. Donc,
c'est une trahison.
Merci.
Faut pas me brancher sur César.
Merci Eric Dessier d'avoir accepté d'être le premier invité de cette émission Sapiens. Merci Fabrice Nouillet, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec grand plaisir, allez à Jacta Est, c'est la mémoire la semaine prochaine.
Ah oui, volontiers.
Si on y pense.
Et là, oui, si on y pense, évidemment. Et là, je vais aller commander une salade, César.
Bon, ça marche. We'll be right back.